Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors, nous voici dans le studio de Radio Courtoisie, donc, où nous présentons la contre-enquête de Radio Courtoisie, menée en partenariat avec L'Incorrect, avec Boulevard Voltaire et avec Logim. Jean-Charles Soulier de Logim nous a quittés. Il est remplacé par Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Pierre-Alexandre.
Et nous allons donc maintenant passer à l'association, enfin la structure en tout cas qui nous intéresse le plus ce soir, parce que c'est celle qui potentiellement a le plus gros risque de déclencher des conséquences graves si par hasard elle était en dehors des clous. C'est l'Institut La Boétie, donc, qui est laboratoire d'idées, le think tank, comme on dit en bon français, de LFI, et qui a apparemment donc qui pose en tout cas beaucoup de questions. Alors, on va essayer d'y répondre calmement, sans accusation, mais néanmoins de manière claire, parce que c'est quand même un peu étrange. Alors Rodolphe Carte, vous avez beaucoup travaillé sur LFI en général, et puis là sur l'Institut La Boétie en particulier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qu'est cet institut ?
Oui, alors c'est un fonds de dotation. Des fonds de dotation, il y en a plusieurs. On sait que certains sont plutôt poreux aussi avec d'autres partis politiques. Je pense par exemple à Gabriel Péri avec le Parti communiste, la Fondation Jean Jaurès qui est assez proche, on dit, du Parti socialiste, ou même Fonds d'Apol qu'on classe plutôt à droite. Donc là, on a cette écurie justement à constituer des militantes pointes pour la France insoumise et même des cadres. Donc là, c'est peut-être un des premiers points sur lesquels on peut se poser des questions avec cet Institut de La Boétie. Et l'Institut de La Boétie, il faut bien comprendre aussi qu'il est vraiment, comment dire, plongé dans une toile d'araignée, si je puis dire, du mélenchonisme pris au sens large. Parce que l'Institut de La Boétie, tout simplement, c'est aussi un lieu physique. C'est 22 rue d'Hauteville, dans le 18e arrondissement. On est juste en face de la gare du Nord. Et c'est un lieu un peu emblématique pour Mélenchon, parce que c'était ici qu'ont été les locaux du parti de gauche. Donc le parti qu'avait lancé Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il est parti du Parti Socialiste en 2008. Et en réalité, il y a eu un peu, comment dire, un micmac de donations, justement, de lieux physiques. C'est quand même 500 mètres carrés, c'est pas n'importe quoi. À Paris, ici, on sait combien ça coûte le prix du mètre carré, oui. Même si c'est pas les arrondissements les plus prisés, mais quand même c'est important. Et d'ailleurs, pour mener mon enquête, j'ai d'abord travaillé à partir d'une note du blog de Mediapart et ensuite d'un article de Marianne. Donc je suis pas allé chercher mes sources, comment dire, à droite. Et à l'époque, Marianne et cette note du blog de Mediapart reviennent sur, comment dire, une dotation du lieu emblématique du parti de gauche à la France Insoumise, alors que Jean-Luc Mélenchon avait déjà quitté justement le parti de gauche depuis des années. Et ensuite, en remontant et en tirant un peu le fil, on se rend compte que derrière l'Institut de la Boétie, il y a plusieurs structures. Il y a cette structure donc du parti de gauche que je viens de vous expliquer. Il y a aussi l'Aire du Peuple, qui était une structure qui avait accompagné Jean-Luc Mélenchon, notamment dans la campagne de 2017. Et il y a aussi les œillets rouges. Les œillets rouges, c'est une société civile immobilière, donc une SCI qui a été gérée par la trésorière historique de Jean-Luc Mélenchon, qui est Marie-Pierre Auprandi, d'ailleurs qui a été mêlée dans quelques affaires. En fait, à chaque fois, par exemple, que ce soit l'Aire du Peuple ou cette Marie-Pierre Auprandi, à chaque fois qu'il y a eu des campagnes présidentielles, derrière, ils ont été rapatriés, enfin, comment dire, rattrapés par la patrouille, et ils ont dû, comment dire, montrer bah, justement que leur fonds de campagne était, comment dire, licite, ou en tout cas qu'ils étaient clairs. Et donc, on a toute une galaxie comme ça qui s'est constituée un peu comme... comment dire, au commencement de l'Institut de la Boétie. Et ensuite, le deuxième aspect assez intéressant, c'est la composition, on va dire, de l'Institut de la Boétie. Je crois que en allant sur le chemin, l'Institut de la Boétie a répondu à Julie. Si je me trompe pas, c'est Antoine Salle-Papou.
Il me semble.
Donc, quel le
Ce
responsable...
Ce qui n'est pas une injure raciste.
Non, du tout. Qui est le responsable de l'école de formation de l'Institut de la Boétie. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cette galaxie de la France Insoumise, ou en tout cas de l'Institut de la Boétie, vous avez aussi des maisons d'édition, comme les éditions 2031. Je pense que vous ne les connaissez absolument pas autour de cette table. Mais par contre, dans un article du Canard Enchaîné, on lit... que la fille de Jean-Luc Mélenchon travaille dans cette maison d'édition qui édite une partie des gens qui sont à l'Institut de la Boétie. Par exemple aussi, on a Manuel Menal, qui est le secrétaire général de l'Institut de la Boétie, qui a sorti un livre pour un nouveau communalisme aux éditions d'Amsterdam. Et justement, le directeur des éditions de l'Amsterdam, Nicolas Vieille-Caz, et le directeur des éditions d'Amsterdam. Donc on voit qu'en réalité, c'est vraiment une grande famille prise au sens large. Donc là, on revient un peu sur les considérations de Maître Gentillet, d'intérêt public, de caractère éducatif, qui quand même nous pose problème, parce qu'on voit vraiment, comment dire, un système très bien imbriqué, avec des liens très forts entre des sociétés, des entreprises, des sociétés immobilières, et aussi toute une flopée de personnalités. Et ensuite, pour finir sur la constitution de la Boétie...
Et puis ça pose aussi la question de la gestion des intéressés, parce que là, manifestement, ça s'alimente.
Bah, comme je vous l'ai dit, il y a des fondations qui ont des liens plus ou moins avérés avec des partis politiques, mais là on voit vraiment dans chaque strate une marque très profonde de la France Insoumise. Il faut aussi comprendre que l'Institut de la Boétie a deux directeurs, Clémence Guettet, qui est la directrice du programme de la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon. Premier point. Ensuite, vous avez...
Donc Jean-Luc Mélenchon est le directeur de l'Institut de la Boétie.
Co-directeur. Et d'ailleurs, quand il avait été appelé à comparaître devant la commission pour les liens entre les partis politiques et, il me semble, certains courants religieux, c'était... Vous savez, on a dit que c'était même le premier meeting de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il avait été relativement bon. Eh bien, il avait comparu en tant que co-directeur de l'Institut de la Boétie. Donc là, vous voyez aussi encore dans quel bain on baigne. Et pour finir un peu cette présentation de l'Institut de la Boétie, ensuite, vous avez... une équipe, à proprement dit. On a parlé d'Antoine Salle-Papou ou même de Manuel Menal. Et à chaque fois, vous voyez vraiment des liens directement avec la France Insoumise et aussi dans peut-être ce qui constitue vraiment le cœur de l'Institut de la Boétie, c'est les compartiments, parce qu'ils donnent des cours. Vous avez le compartiment de sociologie, le compartiment de géographie, etc., etc. Et là, vous retrouvez à chaque fois des députés qu'on connaît bien, comme Arnaud Le Gall, Adrien Clouet ou Aurélien Trouvé, qu'on connaît très bien aussi. Donc là, c'est une petite présentation sommaire.
Alors, est-ce que ça s'ouvre également à d'autres courants? Est-ce qu'il y a des productions qui pourraient être d'intérêt général à l'Institut de la Boétie?
Bah, eux vont dire que oui. En réalité, l'Institut de la Boétie marche sur deux jambes. Il y a la formation, comment dire, de cadres chaque année qu'ils font. Ils ont un système de rotation où ils vont former des cadres chaque année, 70 environ. Et ensuite, vous avez, on va dire, un peu le côté université populaire où là, ils vont faire des colloques sur certaines questions. Mais là, par exemple, c'est la même chose. Quand vous voyez les intervenants, à chaque fois, c'est des personnes qui sont plus ou moins liées, justement, à la France Insoumise. Il y a, par exemple, Annie Ernaux, qui a fait le dernier meeting à Saint-Denis et qui a, justement, fait... qui a aidé...
qui a apporté un soutien politique à la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.
Exactement. Et il y a plusieurs autres personnalités comme ça. Vous avez, par exemple, Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, on le sait très bien, c'est quelqu'un qui était très influent au monde diplomatique. Et dans, au début des années 2000, quand justement Jean-Luc Mélenchon a noué des liens avec le mouvement chaviste, on sait que ça a été vraiment un laboratoire d'idées, la redécouverte du populisme, on va dire, de gauche en Amérique latine. Et ben justement, on sait qu'il y a eu des liens plus ou moins peureux d'entremetteurs avec le monde diplomatique. Alors, là, je ne vais pas prendre ma propre responsabilité. Il faut se référer au livre de Frédéric Martel qui est revenu sur des possibles liens, notamment des financements à partir du chavisme, notamment pour des partis comme Podemos, Syriza. Ça, il faut plutôt se référer à un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Occident avec un S, il me semble, de Frédéric Martel. C'est pas en lien direct, mais bon, ça vous montre un peu dans quel bain on baigne. Et pour finir, une autre personnalité aussi qui fait partie de ce comité scientifique de l'Institut ABC, c'est Françoise Vergès, qu'on connaît bien aussi, qui est, comment dire, ça c'est mon avis personnel, moins doué que Monsieur Jacques Vergès, que Maître Jacques Vergès. Mais par contre, oui, on voit un peu vraiment un comité scientifique qui est complètement, j'ai envie de dire, soumis à la pensée insoumise. Et d'ailleurs, j'ai quelques citations que je pourrais reprendre de personnes plutôt de gauche qui disent qu'en réalité, il y a très peu d'ouverture de parole.
C'était ma prochaine question. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on sent à l'Institut La Boétie des activités qui servent ou qui pourraient servir à toutes les gauches, à toute la gauche, ou est-ce que c'est vraiment recentré sur l'intérêt de LFI? Et surtout, j'ai l'impression qu'au début, au tout début des activités de l'Institut La Boétie, il y avait une certaine ouverture, et que avec le temps, ça s'est un peu...
Y a un exemple qui est vraiment... j'ai envie de dire démonstratif de cela, c'est la bifurcation petit à petit de Johann Chapoutot, vous savez, le spécialiste du Troisième Reich, du nazisme, Monsieur Chapoutot a participé à un des livres justement de l'Institut de la Boétie, et il compare, il fait un jeu de mots entre Mélenchon et Mélenchon, pour ceux qui connaissent dans l'histoire allemande. Oui, Mélenchon, c'était
Mélenchon.
Ouais, Mélenchon, voilà, ouais. Exactement, il fait un jeu de mots comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez que Johann Chapoutot, qui était il y a quelques années un universitaire assez reconnu, qui avait son prisme par contre, qui sortait des livres notamment aux presses universelles de France, etc., etc., on voit qu'il est devenu de plus en plus militant. Et même, là, permettez-moi d'avoir mon avis plus personnel, en tout cas que biographe de Mélenchon, aujourd'hui, la France Insoumise, ou en tout cas l'Institut de la Boétie, lui permet d'incarner le pôle idéologique qui disent qu'il faut penser à gauche, tout simplement. Là, même si on se projette un petit peu, je sors un tout petit peu du sujet, sur l'après 2027, on sent que Jean-Luc Mélenchon veut revenir à une opposition frontale, bloc de gauche, bloc de droite. Mmh. Et dans sa stratégie, justement, d'avoir un parti-mouvement, un peu sur le type léniniste, d'ailleurs, c'est pas seulement un parti politique, c'est un parti politique qui a son nombre de députés, mais qui a aussi, comment dire, des liens avec la société civile, avec, j'ai envie de dire, des groupes plus ou moins violents. On a vu avec les jeunes gardes au moment de l'affaire de Quentin de Ranque. On voit qu'il y a pour Jean-Luc Mélenchon, à travers l'Institut de la Boétie, une volonté, non pas d'éducation populaire au sens large, mais de devenir, j'ai envie de dire, l'école de formation idéologique de la gauche. Et tout ce qui sort en dehors de ça, sera rejeté au banc des Villeni et de la droite, quelque part. Mais ça, c'est mon avis plutôt personnel, mais on voit vraiment que ça se tourne dans ce sens-là, en tout cas.
D'accord, donc il y a vraiment un centre, enfin, comment dirais-je, comme une sorte de nébuleuse qui se crée autour de LFI et qui utilise donc la Jeune Garde éventuellement comme un mouvement, je dirais pas de maintien de l'ordre, mais en tout cas... de miliciens, oui, voilà, d'activistes de terrain.
Et si je me trompe pas, je crois que Raphaël Arnaud est d'ailleurs intervenu à l'Institut de la Boétie. Ça me revient en tête, d'accord. Mais il me semble, là-dessus, il faudrait... Voilà, exactement.
Et Assa Traoré aussi.
Et Assa Traoré, donc là, vous voyez vraiment la porosité entre le militantisme, le côté politique et le côté idéologique.
Ouais. Et André Asmalm aussi est intervenu à l'Institut de la Boétie. Il est même... Il a donné deux séances de chaire, et je rappelle André Asmalm, qui est ce maître de conférence en écologie humaine, et qui avait expliqué qu'il avait joui des images du 7 octobre.
Voilà. D'accord.
Ah oui. Un type bien.
Oui.
Et le sujet, c'est sur la stratégie de désobéissance, évidemment. Donc ça vous donne une idée, sachant qu'il légitime la violence, ça vous donne une idée de ce qu'on peut entendre à l'Institut de la Boétie.
Jean-Yves Le Gallou.
Juste une petite remarque.
Est-ce que vous êtes fidèle des conférences de l'Institut de la Boétie ?
Non, à tort sans doute. Mais oui. Je trouve frappant que Chapoutot soit au centre, au fond, de l'orientation idéologique. Et ce qui explique peut-être que maintenant, on ne parle plus d'extrême droite ou de raciste, on parle directement de nazi, tant qu'à faire. Ce qui correspond aux intérêts économiques de Chapoutot qui bien écrit sûr. Sur le sujet. Quoi. Donc finalement... en développant cette thématique, lui, il se ramène de la clientèle, c'est sympa.
Pour le coup, on voit vraiment aussi, même, j'ai envie de dire, encore la ramification dans le monde des médias avec le média, justement, qui est un média ou même Blast. On voit qu'il y a vraiment, là, pour le coup, des liens plus ou moins officieux directement avec la France Insoumise. Johan Chapoutot est un abonné récurrent de ces émissions. Et d'ailleurs, oui, c'est quelque part une manne financière. On sait qu'il sort de nombreux livres sur le sujet, aussi des BD sur Libre d'obéir, qui était un de ses derniers livres, justement. Mais en tout cas, là, on voit vraiment une volonté de mainmise sur l'idéologie qui est produite à gauche de la part de Jean-Luc Mélenchon, même si il dira qu'il fait venir des personnalités qui peuvent être un peu en, sur une autre ligne, on va dire, comme Thomas Piketty, mais Thomas Piketty n'est pas non plus, j'ai envie de dire, un libéral.
Alors, on a pointé là quand même les connexions idéologiques entre l'Institut La Boétie et le parti donc, de la France Insoumise. Comme je le disais en introduction, on a envoyé des questions à ces associations pour leur demander peut-être de nous apporter leur propre vision sur nos interrogations et leur donner un droit au contradictoire, comme on dit dans les médias de gauche. Ils n'avaient pas répondu, en tout cas l'Institut La Boétie n'a pas répondu, jusqu'à la sortie aujourd'hui sur nos réseaux sociaux de l'annonce du fait qu'ils étaient un peu... parmi nos préoccupations. Et là, d'un seul coup, la réponse est tombée. Donc, Julie Solveig, est-ce que vous pouvez nous dire un peu...
Je peux vous le lire.
Ben, allons-y. Alors.
Allons-y, comme ça, les auditeurs seront
et
dans la...
Et on demandera à Maître Gentil de rebondir après. Oui.
Bonjour. Suite à votre courriel sur des éléments... Suite à votre courriel sur des éléments sur l'activité de l'Institut La Boétie, voici donc des réponses à vos questions que je suis ravie de vous apporter. L'article L200 du Code général des impôts prévoit que les dons de personnes physiques, fonds de dotation ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur leurs revenus égale à 66% de leur montant. L'Institut La Boétie rentre dans ce cadre et ses donateurs ont le droit à la réduction fiscale comme ceux de la Fonds d'Impôt, de l'ICEP, la Fondation Gabriel Péri, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation pour l'écologie politique. En tant que fonds de dotation, l'Institut La Boétie doit également demander chaque année à la préfecture une autorisation pour procéder à un appel à la générosité du public. C'est le cas depuis 2023 et l'autorisation a été accordée chaque année par arrêté préfectoral. La procédure de rescrit fiscal est une procédure facultative dont nous n'avons pas besoin. Les comptes de l'Institut La Boétie sont déposés et publiés tous les ans et n'ont fait l'objet d'aucune remarque des services compétents. Cordialement, Antoine Salle Papou, Institut La Boétie.
Alors, Pierre Gentillet...
Il dialogue avec les fachos, alors. c'est une avancée inquiétante.
Il s'ouvre à la diversité. Pierre Gentillet, donc je rappelle, vous êtes avocat, vous êtes spécialiste du droit des associations, et encore plus pointu, vous êtes spécialiste des fonds de dotation. Est-ce que cette réponse de l'Institut La Boétie... Alors, j'en profite pour lire un auditeur de Radio Courtoisie, puisque nous, on est la radio de la francophonie, et qui nous dit « Bonsoir messieurs, pour l'invité, Rodolphe Carte, pas de particules dans le nom de l'Institut, comme celui de la rue du 8e, donc c'est l'Institut La Boétie, merci pour ces éclaircissements, courtoisement.
» C'est bien noté.
Soyons précis. Alors, Pierre, pardon.
Oui, écoutez, donc j'ai écouté effectivement attentivement la réponse de l'Institut La Boétie, et je dois dire qu'effectivement je suis assez surpris, c'est-à-dire que pour justifier de sa capacité à émettre des reçus fiscaux et donc d'intérêt général, l'Institut répond qu'il procède à un appel public à la générosité. Ça n'a rien à voir, c'est une formalité qui est nécessaire compte tenu de la forme juridique du fonds de dotation. C'est un peu technique, mais ça ne donne absolument pas le droit d'émettre des reçus fiscaux. C'est même sans lien en réalité. C'est simplement pour une question comptable, pour éviter que les dons soient directement affectés à la dotation. Ça, c'est sur le premier élément. Donc là, je commente cette réponse en direct. Ça me paraît tout à fait surprenant. Deuxièmement, l'Institut La Boétie énonce les différents caractères d'intérêt général, caractère éducatif, social, scientifique, sportif, etc., sans pour autant dire auquel il se raccroche, sans pour autant définir précisément dans quel cadre s'ancrent ces activités. Sur le fait qu'il n'ait jamais été contrôlé, écoutez, tant mieux pour eux, en espérant que l'administration fiscale nous écoute actuellement. Cette réponse, effectivement, ne nous convainc pas. Et enfin, ils indiquent qui n'ont pas de rescrit et que ce n'est pas obligatoire. C'est juste. Ils n'ont pas, ça c'est la seule chose qui est vraie, mais ça ne veut pas dire qu'ils le peuvent pour autant. Une association n'a pas besoin d'un rescrit fiscal pour émettre des reçus fiscaux, je le disais. Une consultation d'avocat peut effectivement suffire, évidemment pas une consultation de complaisance, une consultation objective et fournie, mais le fait de ne pas avoir été contrôlé par l'administration ne veut pas dire qu'ils sont en règle. Donc je trouve leur réponse assez... assez courte, pour tout dire, et je me demande, j'ai peut-être mal écouté, mais il faisait des parallèles avec d'autres structures,
alors,
c'est
notamment
ça
l'ICEP. Alors, il y a un point avec l'ICEP, qui est la fondation, enfin l'école de formation donc fondée par Marion Maréchal, qu'elle ne dirige plus aujourd'hui, mais l'ICEP a une particularité par rapport à l'Institut La Boétie, c'est que l'ICEP ne peut en aucun cas être rattaché au Rassemblement National, ça se saurait.
Absolument.
Et oui. Que donc, c'est une c'est quelque chose de totalement différent.
Alors, je vais vous dire une chose. En l'occurrence, ici, l'ICEP, donc l'ICEP a une vocation éducative. Si il se compare à l'ICEP, ça veut donc dire qu'ils considèrent que leurs activités sont d'intérêt général parce qu'elles ont un caractère éducatif. Alors, il se trouve que c'est un critère qui est, je le connais bien, qui est apprécié de manière très stricte et très sévère par l'administration fiscale. J'ai ressorti, là, pour l'occasion, un rescrit dont... Je ne vous dirai pas quelle association ça concerne, mais en tout cas, je peux vous dire que l'administration fiscale avait refusé à une association éducative qui n'était peut-être pas orientée dans le bon camp, si vous voyez ce que je veux dire, parce que, je cite ici l'administration fiscale, il y avait une absence de neutralité dans les savoirs transmis. Et semble-t-il une orientation catholique traditionnelle de l'association. Alors, oui. Je ne comprends pas très très bien, parce que si on fait le parallèle ici tout de suite avec l'Institut La Boétie, bon, l'orientation, elle est clairement de gauche et d'extrême gauche, et l'absence de neutralité dans les savoirs transmis, je pense qu'on peut rester perplexe si l'Institut La Boétie entend se raccrocher aux critères éducatifs de ses activités. C'est pas, là, ici, on n'est pas sur une activité à caractère éducatif. C'est le but de l'Institut La Boétie, ici, c'est d'être la caisse de résonance idéologique et de propagande de la France insoumise pour gagner le combat culturel, le combat métapolitique, certes, mais directement en étant le bras armé d'un parti politique, ici, la France insoumise, avec un candidat, Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle. Donc, pour le caractère d'intérêt général, on passera encore une fois. Si on veut émettre des reçus fiscaux avec une activité politique, c'est possible. Ça, je le dis, c'est possible. Mmh. Mais pour ça, il faut s'inscrire en tant que parti politique et pas en tant qu'association d'intérêt général. Et ça suppose d'avoir des comptes qui sont contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne. Et c'est ce qu'est la France insoumise.
Vous donc, ça veut dire qu'on entre dans une logique de parti politique.
C'est un autre régime politique. Et exactement, on entre dans le régime des partis politiques, qui est un régime d'ailleurs qui est beaucoup plus contrôlé ici. Oui, pour l'Institut La Boétie, au vu de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu là, je pense qu'on peut très sérieusement s'interroger. J'ajoute une dernière précision. Mmh. Rodolphe Carte a expliqué que l'Institut La Boétie était un fonds de dotation. Un fonds de dotation, ce n'est pas une association. C'est, pour être très simple, un mi-chemin entre une association et une fondation reconnue d'utilité publique. C'est une petite fondation privée, si vous voulez. Et les avantages fiscaux d'un fonds de dotation sont beaucoup plus élevés que pour une association. Par exemple, un fonds de dotation qui reçoit un legs ou une donation notariée, prenons plutôt l'exemple d'un legs, il est exonéré à 100% des droits de succession. Alors qu'en principe, c'est 60% que prélève l'État.
Alors là, je rebondis sur ce que vous dites.
Vous voyez, l'enjeu est important ici aussi.
Je rebondis sur un point
qui concerne les fonds de dotation.
Pratico-pratique, Pierre Gentillet, parce que si j'ai bien suivi le travail, notamment de Julie Solveig sur l'Institut La Boétie, on a... Rodolphe Carte ayant travaillé plutôt sur l'aspect intellectuel et politique, et Julie Solveig sur l'aspect technique et économique, ils ont reçu un don très important d'1,5 million, je crois.
C'est ça, c'était en 2024, le bilan a triplé, mais pas grâce à l'activité. En 2023, on était à 820 000 et des brouettes euros de total, et en 2024, on est passé à 2,484 millions d'euros.
Alors ça pose une question importante, donc, parce que quelle était la nature de ce million et demi, c'est-à-dire est-ce que c'est un legs, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est une subvention? En fait, ça serait intéressant
c'est
de savoir
indiqué,
ce que c'est.
Ça peut être indiqué dans les comptes. Je vous ai coupé, pardon, Pierre-Alexandre.
Non,
ça
je vous
peut
en
être
prie.
Indiqué dans les comptes.
Mais
tout
il
dépend
faut
de l'intitulé.
Une dotation. Une dotation.
Ouais.
De combien
1,56 million.
Non. Non, pardonnez-moi, je pense que là, vous lisez le bilan. Ce qu'il faut lire, en l'occurrence, puisqu'on parle de comptabilité, il faut regarder dans le compte de résultats et regarder exactement quelle est la nature de ce flux. Est-ce que c'est un legs? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une donation notariée?
Et puis sinon, bah, on leur renverra la question, puisqu'ils ont de la gentillesse de nous répondre.
Oui.
Je pense que... Bah non, c'est vrai, c'est important, parce que si jamais ils sont en règle, bah, il ne faut pas les accuser inutilement, mais par contre, on a le droit de s'interroger sur la nature, parce que imaginons que ce soit un bien immobilier dont ils aient fait l'héritage, ou que ce soit un énorme héritage, encore une fois, ou une subvention quelconque, s'ils l'ont reçu, et si c'est un héritage, c'est encore plus grave, parce que s'ils l'ont reçu sans droit de succession, et qu'ils l'ont reçu, ils l'ont perçu de manière irrégulière, potentiellement, le dommage est grave.
Bah, peut-être pour le don est de 2024, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et
oui,
ben
oui.
En 2024, en fait, le 1er mars, c'est à cette date-là, cette année-là, que le PG a cédé sans contrepartie financière ses parts à l'Institut de la Boétie, donc ce fameux bâtiment.
Ah.
Donc ça pourrait peut-être. Et
donc
aussi,
le parti de gauche, hein, le PG.
Peut-être, il me semble que Maître Gentillet mentionnait bien au début de notre long entretien, la différence entre l'intérêt général et les fondations reconnues d'intérêt public.
Parce que, d'utilité publique.
D'utilité publique. Voilà, exactement, parce que Julie, dans le message qu'elle a lu, il y a cette comparaison aussi avec la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Gabriel Péri, qui, eux, sont reconnus d'utilité publique. Et en réalité, quand l'Institut La Boétie avait été lancé en 2022, il y avait eu un premier versement d'1 million d'euros sur le compte par la France Insoumise. Or, pour demander au ministère de l'Intérieur d'avoir le statut de fondation reconnue d'utilité publique, il fallait dépasser un seuil d'1,5 million d'euros. Donc peut-être que depuis, en réalité, elle a peut-être été reconnue. Peut-être il faut demander aussi si cette reconnaissance de fondation reconnue d'utilité publique a été faite. Et c'est peut-être pour ça qu'à partir de 2024, il y a eu ce fameux gros don pour passer ce fameux seuil d'1,5 million.
Oh, ça serait, je pense que ça serait écrit dans les...
Ce que vous me dites, c'est que j'ai peut-être mal compris parce qu'à un moment ça a coupé, c'est que l'Institut La Boétie aurait été reconnu d'utilité publique par décret. Ça me paraît absolument impossible.
Oui, oui, non, en fait, je disais qu'en 2022, ils avaient eu un versement de la France Insoumise, et pour demander au ministère de l'Intérieur d'avoir ce statut de fondation reconnue d'utilité publique, il fallait dépasser ce seuil d'1,5 million d'euros, ce qu'ils ne pouvaient pas faire en 2022.
Oui,
mais donc,
c'est
quand même intéressant que dans le message que Julie a reçu, il y a cette comparaison avec l'ICEP, c'est ça. Et donc aussi avec les autres fondations qui, elles, sont reconnues d'utilité publique, que sont la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Gabriel Péri.
Et la Fondapol également, qui sont d'utilité publique.
C'est ce qu'ils ambitionnent, oui. C'est vrai qu'effectivement, pour être une fondation reconnue d'utilité publique, alors c'est très long, ça suppose effectivement d'instruire un dossier, il y a un minimum, mais c'est vraiment un minimum, effectivement, d'1,5 million d'euros.
D'accord. Alors se pose ensuite la question quand même des liens ambigus entre l'Institut La Boétie, que ce soit un fonds de dotation ou une fondation, et le parti politique, la France Insoumise, dont il est potentiellement une courroie de transmission intellectuelle au moins.
Parce que moi j'avais une question justement, est-ce que ce qu'on reproche, ce qu'on peut reprocher, ou ce qu'on peut soupçonner, ou la question qu'on peut poser à l'Institut La Boétie, c'est pas...
La Boétie
C'est ce que j'ai dit, l'Institut La Boétie. Écoutez, enfin, il a trop de cheveux, il n'entend plus rien. C'est pas que ça soit un laboratoire d'idées de gauche, mais que ça soit un laboratoire d'idées qui bosse exclusivement pour un parti. On peut être un laboratoire d'idées de droite qui bosse pour toutes les droites, un laboratoire d'idées du centre qui bosse pour tous les extrêmes centristes, et de gauche qui bossent pour toutes les gauches. Mais là, si j'ai bien compris, ne peut être reconnu d'intérêt général un laboratoire d'idées qui bosse exclusivement pour un parti politique. C'est bien cela ?
J'ai juste une petite rectification avant de laisser Maître Gentillet. Dans un article de Mediapart, il y avait cette phrase qui était assez intéressante. On avait mentionné les universités d'été de la France Insoumise. Et donc, dans cette attaque de Mediapart, on peut lire « L'Institut La Boétie qui organise chaque année la moitié des ateliers et conférences aux amphis d'été de la France Insoumise ». Donc là, ils organisent eux-mêmes, j'ai envie de dire, la moitié de l'université de la France Insoumise.
S'ils organisaient les conférences de toutes les universités de partis politiques de gauche, ça serait moins choquant, mais c'est semble qu'ils le font pas.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, moi je crois qu'il faut évoquer dans cette affaire la Fondapol. La Fondapol, je considère qu'aujourd'hui, elle fait un travail très intéressant avec Ragnier. Il y a des études, des sondages, etc. Au départ, ça a été créé à l'initiative de Jérôme Monod comme un moyen de contourner pour le RPR les contraintes de financement des partis politiques. Les contraintes de financement, publication des comptes, surveillance des comptes, limitation des dons. On peut donner à un parti politique, mais le don est limité à 5 000 euros, je crois, par... Par Kidam. Je pense qu'au départ, la Fondapol a été conçue, donc un petit peu comme l'Institut de la Boétie.
La Boétie,
décidément, avec LFI, comme un moyen de contourner les règles de partis politiques. Et d'un certain point de vue, ça a échappé, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça fait un vrai travail tout à fait intéressant. Je ne pense pas qu'il y ait de lien financier. Ni particulièrement structurel avec LR. Voilà. Alors que dans le cas de l'Institut La Boétie, ce qui peut paraître, ce qui à mon avis est le plus fragile, c'est le fait que
c'est la porosité, c'est finalement déjà, un les dirigeants.
De fait, une branche d'un parti politique qui échappe au financement des règles très, très strictes et très contraignantes des partis politiques.
Ah, on peut contester.
C'est là la fragilité. Pour le reste, qu'ils fassent appel à des dons et tout. Pourquoi pas? Mais est-ce que ce n'est pas simplement une succursale d'un parti politique, auquel cas il devrait se soumettre aux mêmes règles que le parti politique? C'est ça le problème, à mon avis, avec la Boétie.
Oui, bah ça, je pense qu'on est d'accord. Pierre Gentil, je pense que vous serez d'accord.
Et s'agissant de
aussi.
La Fondapol, au départ, il y avait bien l'idée. Monod était quand même un homme qui savait manier les affaires. Il y avait bien l'idée d'avoir quelque chose à côté du parti qui n'aurait pas les mêmes contraintes que le parti.
Oui, mais alors à une époque peut-être où les lois étaient déjà différentes.
Ah ben les lois sur les partis, elles existent quand même depuis un certain temps. Elles ont cessé de se renforcer, mais elles existaient déjà à l'époque. C'est une affaire qui doit remonter à 20 ans, ça, à peu près.
Ouais.
Mais il y avait déjà... Financement des partis politiques, ça remonte à 30 ans. Après, ça se durcit, ça se complexifie, mais ça se bureaucratise aussi.
Alors Pierre Gentillet, pour conclure, oui. Ensuite on va quand même passer aux autres sujets de cette émission, mais oui. L'Institut La Boétie, donc, a une gestion qui peut paraître... poreuse avec LFI, notamment par le fait que ses dirigeants soient parfois les mêmes, que ses activités conduisent à la promotion de ce parti et pas à la promotion de la diversité des gauches. Et c'est peut-être cela qui peut être une limite à sa prétention à se revendiquer d'intérêt général. Est-ce que je résume bien le...
Alors, ce que vous dites, en fait, fait écho à ce que disait juste avant, où vous le résumez effectivement Arthur de Vatrigan. Une des questions qui peut se poser, outre le fait de savoir si ce sont des activités à caractère éducatif, scientifique, pour l'Institut La Boétie, c'est est-ce que l'Institut La Boétie, je reprends les critères de l'administration, ne fonctionne pas pour un cercle restreint de personnes? Parce que finalement, ici, c'est au profit exclusif de la France Insoumise. J'ai retrouvé la définition que donne...
Avec les dirigeants de la France Insoumise.
Oui, avec des dirigeants de la France Insoumise. Je vous lis la définition que donne l'administration fiscale. Alors, elle la commente ensuite abondamment, mais que l'administration fiscale donne d'un cercle restreint de personnes. Je cite. « Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables. » On parle des personnes morales comme physiques. Hein, « membres ou non de l'organisme sont ainsi considérés comme exerçant leur activité. » C'est un exemple. Au profit d'un cercle restreint de personnes, des organismes qui ont pour but de servir des intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes, chercheurs, etc. Vous voyez, c'est ça la définition que donne l'administration fiscale d'un cercle restreint de personnes. Donc effectivement, au regard de cette définition-là, il y a certains intérêts politiques particuliers, certains intérêts partisans particuliers exclusifs qui sont servis ici, qui sont poursuivis par l'Institut La Boétie et qui coïncident très nettement, même totalement, avec ceux de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, je pense que c'est pour ça que la question peut être posée, bien sûr.
Eh bien, ça serait intéressant en tout cas qu'elle soit posée à Éric Coquerel, parce qu'il est le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, il est député LFI, et peut-être qu'avant de changer le droit pour que les associations de droite ne puissent plus bénéficier du statut d'intérêt général, avant de lancer des missions de contrôle des associations de droite qui ne seraient pas parfaitement en règle, ben j'ai l'impression là que s'il veut lancer une grande mission, une grande commission d'enquête parlementaire, un truc comme ça, ça serait vraiment nécessaire et indispensable, donc qu'il commence par balayer devant chez lui. Et voilà, donc il y a quand même un peu de boulot avant d'arriver jusqu'aux assauts de droite, j'ai l'impression. Et en tout cas, je ne vois pas comment, voulant taper sur les associations de droite, il pourrait se dispenser de vérifier également si les associations de gauche sont parfaitement aux normes. Voilà, c'était ma pensée philosophique du jour.
Par définition, parce qu'elles sont de gauche, elles sont aux normes, enfin.
Ça, c'est vrai.
Ah, mais pas Pierre Alexandre.
Ça, c'est vrai. Il est vrai que les gens de gauche ont cette conscience tapissée de pétales de rose qui font qu'ils sont toujours constamment dans leur droit.
Ils sont dans le camp du bien.
C'est vrai. Mais néanmoins, ils ne sont peut-être pas dans le camp du juste et du rigoureusement légal. Et voilà, je pense que c'est un vrai sujet. Alors, sur ces forts propos de votre serviteur, voilà, on se retrouve dans une minute pour aborder les autres sujets de notre rendez-vous de la réinformation. A tout de suite. Nous revoilà, ça débat sec à Radio Courtoisie, même hors antenne, surtout hors antenne.
Je vais pas vous dire ce qu'on dit hors antenne.
Ah bah non.
Alors, mais ça reste très politiquement correct, je tiens à rassurer les auditeurs.
Voilà. Jean-Yves Le Gallou est beaucoup plus de gauche en antenne qu'à l'antenne, hein, je vous le dis.
Ouais, je sais pas comment il faut le prendre, mais...
Très mal, c'est une attaque ad hominem.
Allez, on attaque le rendez-vous de la réinformation. Il nous reste peu de temps, j'espère qu'on aura de quoi traiter quand même quelques sujets. La fête de la musique. Alors ça, c'était quand même assez rigolo. Enfin, rigolo, façon de parler. Donc dimanche, hier, avait lieu la fête de la musique. Et on a eu donc à République le concert de LFI, qui avait d'abord été annulé, et puis qui a été rétabli. Nous avons eu des événements à Châtelet.
C'est une bonne chose.
Oui, nous sommes pour la liberté d'expression.
Absolument.
On a vu à Châtelet, donc, la zone centrale de Paris historique, devenir une forme de décharge à ciel ouvert le lendemain. On a vu des émeutiers dispersés au gaz lacrymogène. Et on a vu également des malheureux passants ou des gens qui sortaient s'amuser pour écouter un peu de musique se faire molester, malmener, non pas par des CRS, SS, mais par des racailles qui étaient venus un peu profiter de la situation. Et en tout, donc, on a eu un ministre de l'Intérieur qui nous a dit que tout avait été parfaitement maîtrisé et qu'aucun débordement majeur n'avait été recensé. Alors, je crois qu'il n'a pas regardé les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Il n'a peut-être pas pris connaissance des près de 250 arrestations qui ont eu lieu, des dizaines de voitures brûlées ou détruites, des passants intimidés ou molestés, j'y reviens, des attaques à la seringue également, qui deviennent une sorte de tradition, un peu comme les voitures brûlées du premier de l'an. Là, c'est à la fête de la musique, on plante des seringues dans les bras ou les fesses des gens. Et voilà, donc je ne sais pas si vous êtes vous-même allé à la fête de la musique, ou si vous y avez laissé vos enfants, si vous avez laissé vos enfants y contribuer, mais je voulais avoir votre point de vue sur ces événements, donc aussi bien le concert de LFI que les événements à Paris et en province.
Alors,
Jean-Yves Le Gallou.
Il y a, évidemment, on n'a pas les images sous les yeux, mais il y a une lecture très communautaire de la fête de la musique.
Ah, aussi.
Qui a été faite par...
F de Souche.
F de Souche, oui. Qui a montré quatre photos. Je ne sais pas si vous avez vu.
Je les ai vues.
Alors, il y a la photo de la fête de LFI à la République. C'est une fête blanche. Il y a la photo de la manifestation antiraciste organisée à Barbès avec M. Bagay Gokho. C'est une fête plutôt arabe avec des drapeaux algériens. Et puis, il y a le Châtelet qui est envahi par une foule africaine en liesse. Et puis, il y a dans le 16e arrondissement une fête avec de la musique juive et le drapeau israélien. C'est le multicommunautarisme à l'état pur, avec ce qui est intéressant, la dissociation du côté de LFI entre leur public, en quelque sorte, français de souche gaucho
et les aspirations Nouvelle-France.
Et les aspirations Nouvelle-France, voilà. C'est quand même très, très parlant. Indépendamment, oui. Effectivement, des 250 voitures brûlées, ce qui est assez peu par rapport à un 14 juillet, par exemple.
C'est vrai. Oui, bon, on se console comme on peut. Voilà. Je vous remercie de votre relativisme, Jean-Yves Le Gallou, qui me fait penser qu'Arthur de Vatrigan a raison sur votre progressisme caché. alors, c'est surtout que la fête de la musique avait été quand même été créée par Jack Lang. Formidable Jack Lang, qui a laissé un si beau souvenir à tous les gens qui l'ont côtoyé. Et à M. Epstein.
Mais ce n'était pas une mauvaise idée, d'ailleurs. Ce n'était pas la pire idée.
Il y avait une volonté quand même de se substituer à la Saint-Jean. Un peu, quand même. Il y avait une dimension. À l'époque, on se rappelle des années 80, où les gens allaient encore un peu à l'église, où il y avait encore une vision chrétienne. C'est-à-dire, on ne parle pas de 2026, où plus personne ne comprend rien, ne croit rien, ne sait rien et s'en fout. C'est quand même une époque où ça comptait, quand on était de gauche, de taper sur le catholicisme. Mais là, je pense qu'il y avait une volonté de se substituer. Mais il y avait surtout un esprit de concorde, très touche pas à mon pote, multiculti et
métissage généralisé. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, quand il annonce sa manifestation Place de la République, il dit une manifestation dans la tradition antiraciste, parce que c'est déjà la norme un peu à cette époque-là. Mais après, sur le papier, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, mais ça reste quand même dans l'idéologie de Langaise de tout est culture.
Oui.
À la fête de la musique, déjà ce truc absurde, quand vous avez des rues commerçantes ou de passage très sympathiques, parce que vous avez plein de bars... Et vous trouverez toujours des places en terrasse en train d'été. Le problème, c'est qu'ils mettent chacun des groupes de musique. Et donc, vous avez à un mètre d'écart des groupes de musique qui jouent des musiques différentes. Donc, ça fait une cacophonie pas possible. C'est inaudible. Ça vous explose les tympans.
Ah,
et surtout, il
n'y
a aucune hiérarchie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne savent ni chanter ni jouer, qui font une cacophonie pas possible. Et sous
cacophonie.
Mais c'est une cacophonie.
C'est un néologisme.
C'est un néologisme, tout à fait. Et le parce que tout le monde est artiste, voilà. Bah non, tout le monde n'est pas artiste, et ça me saoule d'entendre des espèces de géniards chanter alors qu'ils ne savent pas chanter, et trois blaireaux qui jouent au violon alors qu'ils ne savent même pas l'accorder.
C'est l'élitisme de l'incorrect. C'est des petits groupes. Que, des petits groupes qui
mais
jouent,
quand ils sont sous vos fenêtres, c'est pas des petits groupes, c'est un emmerdeur jusqu'à 6 heures du mat. Et pour revenir à Nouniez, qui est toujours très content parce que le lendemain de la demi-finale,
il était content.
Il n'y avait pas de problème, sauf que.
C'est l'imbécile heureux, Nouniez.
Je ne peux pas vous laisser dire ça, maîtrise de l'antenne.
S'il n'y avait pas de problème, en tout cas, les journalistes, eux, le savaient parce que dans toute la presse, vous aviez quand même dans quel quartier il faut aller pour être peinard et dans lesquels quartiers il faut surtout éviter d'envoyer vos gamins. Et ça, c'était avant que la fête de la musique débarque.
Vous pouvez.
Dans le Figaro, par exemple.
Ah, mais dans le Figaro, on s'y attend, c'est normal.
Bah, on s'y attend, il n'y a que le ministre de l'Intérieur qui ne s'y attendait pas. Ouais. Voilà. Et vous avez une cartographie où aller ou ne pas aller. Voilà.
Ah,
oui. Bah oui, évidemment. Ah, d'ailleurs, vous avez un gamin, vous l'envoyez place de la République
César, pardon. Non.
Évidemment
que non.
Si ça s'est bien passé avec Mélenchon. Oui.
Je ne sais pas, ça s'est bien passé.
Oh, apparemment.
Dans les rues adjacentes, je ne suis pas certain.
Mais il n'y a pas quelqu'un qui est tombé, qui a fait une chute grave.
Si, Canal Saint-Martin. Ah, il y en a un qui en a poussé même. Ouais. Et je crois qu'il y a une petite frite, il y en a un qui a dû marcher sur le doigt de pied, il était pas content.
Une chute méchante.
Et il a fait une chute de 4 mètres. Et en dessous, c'est du pavé.
Ouais.
Donc, oui, en effet.
Et il est devenu poste, monsieur,
je sais pas. Après, il y avait un arrêté au Canal Saint-Martin pour ne pas boire. Je sais pas comment. Bah, non, mais le problème, c'est que comme l'autre avait, le maire de Paris avait accepté que d'augmenter le marché du dermato, parce que forcément les types étant en manque de passion, il avait autorisé qu'on se baigne dans le canal Saint-Martin. Ah oui, c'est quand même, bah oui, les dermatos se frottent les mains en ce moment. Ouais. Ils ont choisi tous les mecs qui arrivent avec leur merde qu'ils ont récupéré. Donc maintenant, bah c'est devenu sale déjà. Alors c'est marrant, le balayage ce matin, il balançait tout.
Ah oui,
dans le canal.
Tout dans le canal.
Bon, ça valait le coup de foutre de l'argent pour. Voilà, mais surtout le truc,
mais
c'est.
Mais il faut trier vos déchets.
Canicule oblige, vous buvez. Ouais. Vous faites la fête, vous buvez de l'alcool. Vous buvez de l'alcool, vous avez encore plus chaud. Vous sautez dans le canal. Bon, vous sautez dans le canal et vous êtes un peu bourré, vous vous noyez. Donc ils avaient fait un arrêté, évidemment, pour interdire l'alcool. Et aller contrôler 100 000 personnes sur le canal Saint-Martin, c'était un peu compliqué.
D'accord. Bon, bah écoutez, donc qu'est-ce qu'on en pense de cette fête de la musique ? Une édition comme une autre ou
moi, je pense que la canicule, au nom de la canicule, on devrait arrêter la fête de la musique. C'est trop dangereux.
Parole de quelqu'un qui a des voisins.
C'est l'État Big Mother.
Ouais. Ah bah mais... non, c'est surtout l'État qui veut protéger mes tympans.
En tout cas, on a l'impression qu'on n'a pas eu les débordements auxquels, honnêtement, je m'attendais à bien pire. Pour être tout
mais
à
la
fait
chaleur a dû calmer.
Il y avait énormément de monde à Paris, beaucoup plus que d'habitude.
Ah oui, mais il n'y avait pas de racailles. Par exemple, j'ai vu au Châtelet des bandes donc se faire disperser au gaz lacrymo. Mais vraiment, et là, ça fuyait dans tous les sens. Et je me suis dit, en fait, ce ne sont pas des casseurs professionnels, si je puis dire, des casseurs chevronnés, parce que les casseurs chevronnés viennent avec des lunettes spéciales et ne reculent pas devant les gaz lacrymo. Et là, on avait tout un tas, effectivement, de populations plutôt d'origine africaine, qui se débandaient, qui se barraient dans tous les sens, parce que le gaz leur faisait mal aux yeux, et je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils étaient là pour provoquer,
pour faire la fête,
pour faire la fête
de
manière
brutale
et grossière. Il y avait quand même, moi j'ai vu des voitures vraiment défoncées, brûlées, des pare-brises fracassées, gens qui simulaient des scènes de copulation sur les capots de pauvres automobilistes coincés dans des embouteillages géants.
En préparant le concours de l'ENA, j'ai vu quelqu'un simuler sur un capot de voiture une scène de copulation.
Ah.
Il est devenu ensuite président du Conseil constitutionnel. Donc vous voyez, ce sont des temps anciens.
On savait rire. Ok. Alors, on va passer à une autre bonne nouvelle là. C'est Keir Starmer. Donc, le Premier ministre anglais. Qui avait couvert donc le scandale des grooming gangs, qui avait mis un genou au sol à l'époque de Black Lives Matter et qui a soigneusement persécuté, puni, poursuivi d'une haine vigilante tous les Anglais qui essayaient de protester contre l'immigration de masse, a été poussé à la démission aujourd'hui, puisque au sein de son propre camp, son principal opposant, donc, qui s'appelle Andy Burnham, et qui est le maire de Manchester, a remporté une élection partielle qui oblige donc Starmer à démissionner. Alors, je ne sais pas ce que vous évoque cette démission. Est-ce que, surtout, on peut se demander si son remplaçant est mieux ? Et j'ai l'impression que ce n'est pas sûr.
C'est peu probable.
Donc voilà, je ne sais pas, la démission de Keir Starmer, est-ce que déjà vous avez envie de fêter ça ? Ça vous fait plaisir ?
Déjà, les Anglais savent démissionner, ce qui me rend jaloux.
Ça, c'est la tradition anglaise.
Et ça, on n'a pas ça en France.
Non, c'est vrai que nous, on a l'euthanasie pour finir, et puis on a l'opération de la dignité à la naissance, qui fait que, quand même, on l'oublie, et on n'y pense plus jamais.
Les autres pays renouvellent leur classe politique.
Oui.
Voilà. Alors qu'en France, on garde les mêmes d'échec en échec.
Oui, jusqu'à la victoire finale.
Je ne citerai pas de nom, parce que je veux rester convenable. Mais alors qu'en Angleterre, ça renouvelle. Thatcher, elle perd, c'est Major qui succède. Blair, c'est Brown qui lui succède. Là, c'est sans doute ce qui va arriver à Monsieur Starmer. C'est pas sûr.
C'est ce fameux Andy Burnham. Mais alors, je me posais la question, est-ce que on peut relier ça ? Mais je ne vois pas comment, à vrai dire. Est-ce qu'on peut relier ça à son comportement envers la population anglaise ?
J'ai l'impression que c'est la conséquence de l'élection partielle où Monsieur Andy Burnham était candidat, a été élu en bénéficiant d'un vote utile du parti libéral, du parti conservateur qui ont quasiment disparu parce que c'était à mon avis un message pour dire on va envoyer Burnham et comme ça on remplacera Starmer.
Ouais.
Et ça s'est joué entre Burnham
et Farage.
Et Farage, et le candidat de Réforme du UK, concurrencé de manière sérieuse par Restore Britain. Mais je pense que les électeurs, allez, l'extrême centre, a voté pour le travailliste Burnham pour remplacer Starmer.
Pour remplacer Starmer. Mais Starmer est discrédité quand même. Enfin, une élection partielle qui provoque une démission du Premier ministre, c'est quand même pas courant. Donc, c'est-à-dire que Starmer avait vraiment fait le travail pour se discréditer auprès de sa propre population et de son parti.
Oui, mais je pense que si vous voulez continuer la politique de Starmer, il faut remplacer Starmer. De même que si vous voulez continuer la politique de Macron, il faut remplacer Macron.
Oui,
donc ça ne règle pas forcément le problème de fond.
C'est effectivement pas forcément changer de politique, mais changer de cheval. On dit d'ailleurs que Starmer, c'est pour ça que je me dis qu'il est peut-être encore pire, qu'il serait un bon profil pour mettre en place une espèce de gauche plurielle, une alliance des gauches, y compris l'extrême gauche. Alors voilà, ça peut être une...
Ben, y a les écolos en Angleterre qui sont devenus... L'un des problèmes des travaillistes, c'est qu'il y a une branche écolo qui s'est créée sur une base ethnique. Et donc, effectivement, la gauche plurielle, ça pourrait être d'associer les écolos, ce qui est une manière de récupérer une partie de l'électorat ethnique des travaillistes qui est parti chez les Verts, qui sont verts dans tous les sens du terme.
Mais c'est quoi la branche ethnique des écolos? Et j'avoue que
La branche ethnique, c'est-à-dire c'est des écolos qui mobilisent un électorat pakistanais ou africain.
Ah, c'est marrant. Ça.
Et qui, par la même concurrence, le Parti travailliste qui en avait fait un de ses fonds de commerce.
Et l'électorat afro-pakistanais marche au discours écolo.
Ils s'en foutent, c'est un habillage.
Ok, d'accord.
C'est un habillage.
Un véhicule,
oui. Oui, c'est un véhicule, oui.
D'accord.
Oui, un véhicule. Voilà, je crois que c'est...
D'accord, bon, c'est assez amusant, écoutez, pourquoi pas.
Alors, je pense qu'ils se foutent
complètement c'est un peu comme l'électeur et les fistes de Saint-Denis n'a pas un souci de la lutte des classes qui doit être prédominant.
Ni de la transition
ni
de
genre. Ni de la transition de genre, oui. Alors, il nous reste 4 minutes pour parler du dernier sujet. C'est le procès donc, de Thaïs d'Escuffon qui a quand même été sévèrement puni pour simplement avoir crié son indignation après avoir été sexuellement agressé par un immigré d'origine maghrébine. Alors, la semaine dernière, donc, la militante identitaire Thaïs d'Escuffon a été condamnée à 1 000 euros pour avoir affirmé sur un plateau télé que, je la cite, et je condamne ses propos, évidemment, je m'en désolidarise intégralement. Elle a quand même dit que les immigrés noirs et arabes étaient la principale menace pour les femmes en France. Et cette déclaration, alors qu'on peut
sur BFM TV,
qu'on peut juger un peu globalisante ou peut-être un peu excessive,
essentialiste,
oui. Voilà. Mais survenait après que la pauvre Thaïs d'Escuffon a été agressée, séquestrée chez elle par un immigré donc maghrébin qui avait tenté de la violer. Donc on pouvait peut-être comprendre qu'elle avait des circonstances atténuantes, enfin qu'il y avait des circonstances atténuantes à sa colère. Et le procureur a néanmoins réclamé, au-delà des 1 000 euros d'amende, 4 mois de prison ferme, qui, heureusement, n'ont pas été appliqués grâce à son avocat, Maître Loïc Lerat. Alors, voilà, je me demandais, est-ce qu'au vu de la légèreté des peines qui frappent des délinquants ou des criminels avérés en France, est-ce que, Jean-Yves, on peut encore faire confiance à la justice de notre pays?
Non, on ne fait pas confiance.
Comme ça, il répond de but en blanc.
On ne peut pas faire confiance à la justice de notre pays. Pourquoi? Parce que la justice n'a pas les bonnes priorités. Elle met au premier plan les crimes de la pensée et au second plan les vrais crimes physiques et qu'elle est structurellement partiale parce que les juges sont formés à l'idéologie progressiste à l'École nationale de la magistrature et parce que les deux principaux syndicats de la magistrature, en gros, c'est extrême-gauche,
oui,
et l'Union syndicale des magistrats, c'est extrême-centre. Donc on ne peut pas avoir confiance dans la justice de son pays, c'est très malheureux, mais c'est comme ça.
Bon. Arthur de Vatrigan, en une grosse minute.
En une minute, quand je vois tout ce qu'on rapporte des décisions de justice, j'ai beaucoup de doutes, et quand je rapporte à mon cas personnel, j'ai confiance.
Donc c'est-à-dire
C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé, par rapport à nous, journalistes, alors peut-être qu'on a un traitement de faveur, mais j'ai gagné tous mes procès. Donc, je suis tombé sur la même personne. Donc c'est, non, mais c'est pour ça que je vous dis, de mon point de vue, je me dis, quand je le retrouve devant un tribunal, je suis plutôt confiant. Et quand je lis la presse, je suis effaré. Donc, je sais pas. C'est... Après, la justice, c'est encore une fois, ce sont des lois. Il y a des lois qui sont absurdes. Ce sont ceux qui interprètent les lois. Et évidemment, il y a des magistrats militants qui revendiquent leur militantisme. Et ces gens-là me font vomir. Mais peut-être qu'il y a aussi, il y a des magistrats qui font leur boulot comme ils peuvent aussi, et que j'ai dû tomber sur des bons. Voilà. Donc j'ai eu de la chance.
La roulette judiciaire.
Oui, alors moi je pourrais dire un peu la même chose qu'Arthur de Vatrigan, parce qu'effectivement j'ai gagné mes procès. Alors, quand même devant la 17e chambre correctionnelle, qui est de Paris, qui est une chambre qui juge les délits de presse, et qui, même si elle est parfois orientée, a quand même tendance à être soucieuse des libertés. Et le véritable danger, c'est le contournement de la loi sur la presse de 1881 par de nouvelles lois, soi-disant sur le harcèlement, qui n'apportent plus les mêmes protections et qui peuvent aboutir à des dérives. Alors il y a eu, on ne va pas faire tout à fait le fond de l'affaire, mais il y a eu à Bobigny une condamnation de frontière, par l'utilisation de la loi Paty, par un juge dont la neutralité est quand même sujette à caution quand on voit l'ensemble de ses déclarations dans les médias, voire des médias étrangers, voire dans des pays étrangers. Et indépendamment de cela, c'est une procédure qui a complètement été détournée. Si Frontière a commis des erreurs au regard du droit de la presse, c'était au regard du droit de la presse qu'il fallait poursuivre. D'ailleurs, ils ont été poursuivis au regard du droit de la presse, mais pour cela, ils n'ont pas été condamnés. Et il y a eu l'utilisation de la loi Paty sur le harcèlement, comme les lois sur le séparatisme, qui sont des lois initialement faites pour limiter ou combattre l'islamisme, et qui, en fait, combattent les libertés de tous, parce que derrière Frontières, c'est les libertés de tous qui sont concernées.
Et y compris Thaïs Escuffon, lorsqu'elle se contente de dénoncer son agresseur, alors qu'une femme de gauche aurait eu tout le loisir de s'exprimer librement, elle prend une condamnation sévère. Sur ces propos, chers auditeurs, notre émission se termine. Demain, vous retrouvez Restons Courtois avec Richard de Sèze, mercredi avec Arthur de Vatrigan, jeudi Marc Hainaut et Marc Baudrier pour vendredi. Et je vous souhaite une bonne semaine et ne manquez pas de suivre nos révélations qui vont s'échelonner durant les semaines à venir sur ces associations de gauche et d'extrême gauche qui abusent potentiellement du droit à défiscaliser et qui ensuite nous reprochent de le faire à nous. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. À bientôt.
Ça suffit maintenant.